Ça, ça a été creusé par des rats.
Ah, mais des rats, il y en a. Il y en aura toujours. Je pense que tant qu'il y aura des humains, il y aura des rats.
Là, il y a du passage de rats.
Tant qu'on produira des détritus, des ordures, et qu'il y aura beaucoup de récidivisme, il y aura des rats.
Et là, il y a eu du passage qui a été bouché.
Le tout, c'est de contrôler la situation. Ce n'est pas de les éradiquer.
Alors, c'est infesté de rats, ici.
Bonjour à tous. Au regard des réactions parfois épidermiques quand cette émission a été diffusée la première fois, c'était mi-avril, autant prévenir tout de suite les phobiques, nous allons parler des rats. C'est un animal qui au mieux laisse indifférent, le plus souvent il suscite de l'inconfort et au pire, il réveille des peurs incontrôlables tant il représente la saleté et la maladie. Le rat fait frémir car c'est un animal d'une intelligence redoutable, celle de s'adapter à l'environnement qui l'entoure, bien que venant des ténèbres. Aucun autre animal n'est au centre d'autant d'idées reçues, fausses bien souvent, comme celle qu'il a accusée pendant des siècles d'être responsable de la peste. Ce n'est pas une impression, mais un fait, ils sont de plus en plus visibles dans nos villes. À Paris, les deux récentes crues de la Seine les ont poussés à sortir de leurs tanières, les égouts, où les trois quarts des rats urbains vivent. Partout en France, ce sont les travaux qui métamorphosent nos villes qui les conduisent à se faufiler sur le bitume. Et bien souvent, la dératisation semble une tâche vaine, car sans fin ou presque, d'autant que de nouvelles normes ont rendu les raticides moins performants. Les rats, car ils ont aussi, et quand même des vertus, dévorent chaque année 9 kilos de déchets. Sans eux, nos égouts seraient bouchés. Le défi des villes n'est donc pas de les faire disparaître, mais d'empêcher leur prolifération, ce qui serait une catastrophe pour l'image des municipalités. Le rat, notre nuisible utile, c'est un reportage de Mathilde Dehimi.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Nous sommes dans le 15e arrondissement de Paris. Juste au pied de la tour Eiffel, on a rendez-vous avec Cédric. Cédric a posé il y a un mois de ça un piège, parce qu'il y avait des rats dans les caves d'un immeuble. Aujourd'hui, il vient vérifier que les pièges ont bien fonctionné.
Bonjour, vous allez bien ?
Oui, vous.
Bah écoutez, on fait
aller. Ça va, bon, c'est bien.
Comment vont nos petits bêtes depuis la dernière fois ?
Bah ça va, ça va.
Ça s'est calmé ?
Un petit peu.
D'accord. Vous n'avez pas trouvé le cadavre ?
C'est deux.
Ah, deux. Ils sont encore en bas ?
Non, ils ont enlevé.
Ah, bon. Vous les laissez, je les aurais ramassés.
Ah oui, mais c'est celle-là, elle serait pourrie.
Dites-moi ça. Tout.
On va voir.
Ils sont en train de faire une galerie là-bas.
Ah, bah c'est très bien ça.
On va voir. Bon.
Est-ce qu'il y a des trous là-bas ?
Mais on voit pas trop, à vrai dire, c'est un peu encombré, donc l'accès. Mais c'est fort possible vu le.
Oui.
Vu le nombre de.
Vu des crottes là, tout ce qu'il y a.
Effectivement, ouais.
Il y a
on
des
voit
trous,
des galeries,
hein.
Ouais.
Il y a
tout
des
à fait.
Trous.
Et en plus, les produits qu'on a mis l'autre jour ont disparu. Hein.
Ah bon ?
Donc ils ont mangé.
Ils ont mangé, ah pardon. Donc, ah oui, alors il faut mettre encore.
C'est peut-être ceux que justement vous avez retrouvés morts dans le
oui,
coin là-bas,
bien
ouais.
Sûr.
Donc, hop. Pile poil dans le trou de la. Que je voulais avoir, dans le terrier. Donc j'essaie de rapprocher un maximum mes produits le long des terriers pour vraiment les obliger à venir manger. Hein. Pour que dès qu'ils sortent, en fait, ils aient déjà le poison à portée de bouche. Là, si vous regardez bien, j'en ai un juste là. Là, vous le verrez mieux de mon côté. Il est parti, il est parti. En fait, juste là où j'ai mis mon bloc, dans le trou au niveau du terrier, là, il a sorti sa tête pour voir ce qui se passait.
Ah oui ?
Donc là, ils viennent ici. Donc là, je vais installer une petite boîte.
À votre avis, il y a combien de rats qui nichent ici ?
Bah, c'est très difficile à jauger comme ça. Après, selon la quantité, voilà, on est sur plus d'une dizaine, ça c'est sûr. Ça c'est sûr.
Ça se reproduit beaucoup, ah oui. Un rat ?
Oui, bah, oui. Ça peut tout dépendre, je vous dis, tout dépend de l'environnement, mais ça fait une portée tous les un mois et demi à peu près. Un mois et demi, selon comment ils se plaisent, s'ils se plaisent. Qui font des portées 3-4 petits, qui eux, au bout d'un mois et demi, deux mois maxi, ils commencent à faire des petits aussi. Donc si vous les laissez faire, ça prolifère à une vitesse phénoménale. On est bon, on est bon.
On est bon.
Et là, on arrive sur des vieux les vieilles parties de cave. Et ici, ils n'ont pas trop d'accès. Le seul accès qu'ils auraient pu avoir, c'est la tuyauterie. L'accès, ça se trouve, notre rat peut circuler le long tranquillement. Parce que le rat est quand même un très bon nageur, malgré tout. Ça respire longtemps sous moi. Ça tient longtemps sa respiration, quand même.
Sortie par les toilettes, ouais. C'est possible.
Oui. Par les toilettes, basé au rez-de-chaussée. Après, dans les étages, c'est déjà plus rare. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une grosse montée à monter. Mais par les rez-de-chaussée, ça peut arriver, oui. Ah non, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Moi, j'ai déjà eu le cas chez des clientes où le rat était au fond de la cuvette.
Vous faites jamais des cauchemars là, quand vous rentrez chez vous ?
Non, ça va. Voilà. Plus le temps maintenant, on est habitué.
Au cœur de Paris, devant un magasin qui est très connu ici et jusqu'aux États-Unis puisqu'il a été repris par le dessin animé Ratatouille. Nous sommes chez les Horouz, des ratiseurs de père en fils et en fille. Et on est comme beaucoup de rats et de parisiens, on a un petit peu de mal avec les travaux, alors on va rentrer à l'intérieur. Bonjour madame. Enchantée.
Enchantée, Cécile Horouz, bonjour.
Merci de nous recevoir.
Ah ben, je vous en prie.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce magasin ?
Oui, alors nous sommes la quatrième génération avec mon frère. Nous tenons cette boutique-là depuis 25 ans. Ce magasin a été créé en 1872. Avant, c'était une fabrique essentiellement de pièges qui n'avaient pas de poison. Notre arrière-grand-père, pour l'anecdote, est l'inventeur de la tapette à souris. Voilà, et puis après, donc le grand-père et le père ont développé les raticides. On avait également une usine de raticides qu'on a cédée en 97 et on s'est lancé dans la prestation de services pour traiter tout ce qui est nuisible.
De quoi vous êtes la plus fière dans ce qu'il y a dans cette boutique ?
Oh bah, de l'ancienneté, de ma vitrine et de mes vieux comptoirs en bois.
C'est vrai qu'ils sont très jolis. C'est à l'ancienne.
C'est à l'ancienne, tout à fait.
J'ai des rats dans mon immeuble. Qu'est-ce que là, dans votre vitrine, vous me conseillez ? Il y a beaucoup, beaucoup de produits très différents.
Oui, alors pour des rats dans des immeubles, on va conseiller des blocs à mettre dans des boîtes d'appâtage à rats sécurisées. Et donc le rat va venir grignoter le bloc, le consommer et mourir. C'est des anticoagulants, il meurt 24 à 48 heures après ingestion.
J'ai lu que selon une étude faite par Veto Agro et Pasteur, les rats avaient développé une habitude, une accoutumance aux anticoagulants. Est-ce que c'est toujours aussi efficace ?
Alors, c'est vrai qu'on a certains rats où il y a de la résistance. Après, les produits avec les nouvelles normes ont moins de matière active, ça aussi il faut le savoir, donc sont un petit peu moins efficaces. C'est pour ça qu'on dit à nos clientèles quand ils viennent au magasin, c'est faut toujours réappâter, mettre beaucoup d'appât, beaucoup plus de postes, multiplier beaucoup plus les postes d'appâtage. Les rats, il faut bien se rappeler, ils sont essentiels parce qu'ils nous détruisent une partie de la nourriture, de ce qu'il peut avoir dans les égouts. Hein.
Bonjour, moi c'est Rémi et lui, c'est mon frère Émile.
Salut.
Nous sommes ici pour plaider la cause des rats qui sont opprimés absolument partout et n'ont aucune chance d'avoir accès aux médias. Oh, une chance que nous a valu notre film. Oui, c'est un devoir. Les rats doivent se mobiliser.
Mais donnez-nous à manger, c'est tout ce qu'on demande. Laissez traîner vos poubelles et on vous fichera la paix. Laissez le couvercle en couvert et on s'occupe du reste.
On
enchaîne.
On va prendre le harnais.
Alors, guidez-moi parce que là...
Il s'enfile comme un manteau.
Ah oui, il n'y a plus de soucis là-dessus.
Donc là, on va mettre... Là, c'est le détecteur, je vais l'allumer.
Détecteur de quoi ?
De gaz.
Ça y est, on est à peu près tout équipé. Ça a mis quoi ? Un bon quart d'heure, le temps d'enfiler toutes les couches. Et donc, nous voilà parés pour descendre dans les égouts de Paris.
Ça, c'est le Twin Space.
Alors, c'est un gros masque là que vous me préparez.
Oui.
Ça ressemble un peu du coup à un masque d'aviateur, d'avion de chasse, quoi, qu'on va poser sur la bouche.
Tout à fait. C'est serré ou pas ?
C'est serré, mais ça n'est pas trop.
C'est bon ?
Voilà, là, ça va. Effectivement, je ne vais pas pouvoir de grand chose.
Ah non.
Ah, c'est mieux comme ça.
Voilà.
D'accord, je comprends.
Impeccable. Ça, là. Donc là, c'est allumé, le moteur allumé. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et il manque plus que le casque.
C'est la ceinture, c'est ça?
C'est ça, oui. C'est le truc un peu encombrant.
C'est un masque de sauvetage un peu lourd, mais il comporte une petite cartouche d'oxygène qui permet d'évacuer les goûts en cas de gaz, détection de gaz.
Voilà.
C'est serré ou pas?
C'est serré, ouais. C'est très serré. Et voilà, et la visière, là c'est bien.
Il y a un trou. C'est bon? Ok.
Alors la procédure?
Alors, mettez-vous une là.
Là, une là. Une là. Donc on va commencer par suivre Aurélien qui va commencer le plan de dératisation. Donc je vais déposer du blé dans le branchement de regard.
Attention à vous, marchez pas dessus. Donc comme vous pouvez voir, le produit est épais.
Dans une flaque de sang, gît un rat.
Ce que je vais faire, c'est que je vais en déposer aussi quelques-uns sur les canaux. Donc là au sol, comme il y a quelques crottes de rats, je vais déposer 2-3 blés à terre. Donc évitez de marcher dessus en passant. David, tu peux aller au suivant.
Du blé mélangé à du poison anticoagulant, le rat meurt d'une hémorragie un jour ou deux après en avoir mangé.
Alors on est dans une partie beaucoup plus étroite des égouts. Pourtant on est sur le boulevard Strasbourg-Saint-Denis, donc ça devrait être au contraire bien large. Ce qui est intéressant, c'est de voir que on a très peu de place pour nous les hommes. On a les pieds dans du liquide pas très ragoûtant. Donc c'est la même chose pour les rats, mais de temps en temps, il y a des ouvertures avec un peu de sable, un peu de limon. Et c'est là potentiellement qu'ils peuvent construire leur terrier. C'est pour ça qu'Aurélien vient de déposer des pièges de raticide à cet endroit-là. Le plus important, c'est que ce raticide soit sec pour bien fonctionner.
Alors attention les épaules, attention les pieds, attention un petit peu tout. Viens, regardez. Là, vous avez du sable. Ça veut dire que ça a pu être un niara. Donc peut-être qu'il y en a encore dedans, peut-être qu'il n'y en a plus. Dans le doute, je vais quand même déposer un peu de blé. Et voilà, nous sommes à la fin.
On est sorti des égouts, on s'est vite mis à l'abri dans vos locaux. Je laisse vous présenter.
Je suis Monsieur Taliaferri, je suis le responsable d'atelier. Je m'occupe sur le secteur S de la collecte des égouts. Et en fait, via nos tournées où on vérifie l'état de l'égout, on vérifie s'il n'y a pas trop de rats et tout. Et s'il y a des secteurs qu'on identifie où il y a des rats, ben on enclenche une dératisation.
Parce que le risque finalement dans les égouts avec les rats, c'est des risques d'effondrement par exemple.
Voilà. Les rats vont profiter de défauts structurels. Ils vont nicher dans des petits trous qu'il peut y avoir. Ils vont creuser des galeries et tout. Et il suffit que le niveau d'eau monte. Donc l'eau va s'infiltrer dans ces niches. L'égout peut s'effondrer. C'est pour ça qu'on est très attentif aux rats dans les égouts.
Ça arrive souvent que ça s'effondre, les égouts à Paris ?
Non, c'est très rare et généralement, on l'entreprend bien en amont. Dès qu'on aperçoit des petites fissures, des petits trous et tout, on le signale à nos collègues des travaux et ils vont faire des travaux en amont, avant qu'il y ait des catastrophes, tout simplement.
Je laisse vous présenter aussi.
D'accord, moi c'est Laroque Michael, donc chef d'équipe dératisation et collecte, donc qui est en charge d'organiser les équipes pour la surveillance réseau et la dératisation principalement.
Michael, est-ce que les rats sont vraiment vos ennemis dans les égouts ?
Non, les rats ne sont pas que des ennemis. Ils participent aussi au nettoyage, mais il faut faire attention à la prolifération du rat. Si on ne traite pas justement leur nombre, ils risquent justement de grignoter tous les murs et toutes les aspérités de l'égout et participer à l'effondrement justement de celui-ci.
L'incivilité en surface, des gens qui ne savent pas mettre leurs déchets à la poubelle, est-ce que ça se voit aussi dans les égouts ?
Oui, oui, ça peut. Si la nourriture est jetée sur les routes ou les trottoirs, avec malgré qu'on a maintenant des avaloirs avec grilles qui empêchent justement les gros déchets de descendre, on a quand même tout ce qui est petite alimentation qui part quand même dans l'égout et ça permet de nourrir les rats aussi.
Il y a énormément de parasites sur les rats. Sauf que pour tout un chacun, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter. Finalement, le seul métier en contact et qui peut avoir un risque sanitaire, ce sont les égouttiers, c'est vous.
Voilà, la gastro, c'est un peu le typique. Donc la première mesure, c'est l'hygiène. On porte des gants et tout. Et dès qu'on sort de l'égout, on se lave tout de suite les mains. Après, on a d'autres risques qui sont des maladies comme l'hépatite A. Il suffit d'une éclaboussure dans un œil ou quelque chose comme ça. Mais vous avez vu, on a les lunettes de protection, on a le masque, donc les risques sont limités. Et aussi, il y a la leptospirose, qui est une maladie qui est liée à l'urine du rat qu'on peut attraper. Et ça aussi, on a une vaccination.
Interception sur France Inter.
Nous sommes dans le ventre de Marseille, surnom de Noailles, quartier délabré, commerçant et populaire du centre-ville. Marseille a régulièrement été décimée par la peste au cours de son histoire. Aujourd'hui, un rat qui débarquerait par le port serait chassé par les colonies autochtones qui nichent dans tous les quartiers de la ville, que nous arpentons avec un spécialiste de ces rongeurs.
Pierre Falguera, je suis consultant informateur, expert en hygiène et sécurité. Ma spécialité, c'est les rats, la dératisation.
Pierre Falguera, que vous avez conseillé et vous conseillez toujours un certain nombre de villes en France, et notamment Marseille. Là, comme ça, avec votre regard, donc nous sommes dans le quartier de Noailles, quartier où d'habitude il y a un marché, en ce moment il est en travaux, donc il n'y a pas de marché. Le quartier avec des rues assez étroites, des poubelles et des containers ouverts. Qu'est-ce que vous voyez, vous, qui favorise le développement du rat en dehors des égouts?
Alors, pour connaître un peu Marseille, et notamment les égouts qui passent dans ce quartier, c'est un paradis pour les rats. Ils peuvent s'abriter des prédateurs dans les égouts, qui sont anciens, où ils peuvent creuser force terrier. Ils sont attirés par les odeurs de nourriture qui se trouvent en surface, et donc ils sortent quand ces odeurs sont intenses, donc après le marché et à la tombée de la nuit, ce que confirment la plupart des riverains du quartier. C'est un paradis pour les rats ici.
Bien avant l'aube, la rue Vauvilliers sent le rhum steak. Le rat, que j'appellerai Gaspardino pour simplifier, est né avec cette odeur dans le museau. La plupart du temps, il ne pense qu'à manger. Et la viande reste d'un accès difficile, toujours près des hommes.
Quelles conséquences ça a, le fait qu'il y ait des rats pour votre commerce, par exemple?
Donc c'est nous, avant, quand on ouvre le magasin, on trouve les tomates touchées, les poivrons touchés, les avocats.
Oui, c'est ça.
Ils ne touchent pas les kiwis, les tomates, les bananes. À chaque fois qu'on ouvre 6 heures du matin, on trouve tout touché, touché, touché. Et pourtant, on a fait toutes les précautions. On met la colle pour les rats, ça, mais toujours, toujours. Mais maintenant, ça va. On a refait le garage, tranquille, il n'y a pas le trou passé. Mais ça reste toujours être vigilant. Parce que, on ne sait pas, un petit trou, ça rentre. Un petit trou, ça passe.
Pierre Falguérac, ça vous paraît cohérent, un rat gourmet qui choisit entre ses fruits et ses légumes, comme dit monsieur?
Oui, bien sûr. Les rats ont un odorat qui est 1000 fois plus discriminant que le nôtre. Et ils ont moins de papilles gustatives sur la langue. Ce qui fait que c'est l'odeur qui va les attirer, donc les fruits les plus odorants, et les fruits qui vont avoir le plus de... qui vont paraître le plus gras.
Surtout le pastèque, le melon. Alors là, et les avocats. La période les melons et les pastèques, je vous dis pas, madame. Ils font un grand trou, ils mangent ce qu'il y a à l'intérieur, ils le laissent comme ça. Ils ne touchent pas à n'importe quoi.
Voilà. Ceci étant, toutes les colonies de rats n'ont pas toutes les mêmes goûts. Les rats de chez vous préfèrent l'avocat. Peut-être que 200 mètres plus loin, les rats préféreront les kiwis ou les oranges. Y a pas de, on ne peut pas établir que tous les rats ont les mêmes goûts.
Quelques rats ont pris l'habitude de boire leur dose de bière avant la chasse. Alors ils se croient invulnérables. Ils foncent sur les pigeons, mais les manquent.
Rue Longue, c'est là où le marchand de légumes tout à l'heure nous a conseillé d'aller.
Ça a été creusé par des rats. Là, il y a du passage de rats. Ils se servent des gaines électriques pour circuler. Et là, il y a eu du passage qui a été bouché. Alors, c'est infesté de rats ici. Un rat passe entre 50% et 75% de son temps dans son terrier. Il n'en sort que pour boire et manger ou user ses incisives hypsodontes à croissance continue. Donc quand on voit un rat à l'extérieur, c'est qu'il a besoin de manger.
En peu de jours, les rats de Gaspardino ont repéré les réserves de nourriture les moins dangereuses et pratiqué des pistes d'accès. Pour aller du nid au terrain de chasse, il suffit de renifler les déjections de la colonie, de cachette en cachette. Les rats aménagent ainsi des parcours et ils ne s'aventurent pas au-delà. Patrick Rambaud, comme des rats.
Donc, dans le quartier où nous sommes, il y a peut-être une ou deux colonies qui représentent entre 20 et 50 individus qui vont sortir tous les soirs par ici ou par d'autres regards. Ils vont aller se nourrir. Ils vont rentrer au terrier une fois qu'ils ont le ventre plein. Quand les petits vont être sevrés, quand les petits vont devenir jeunes adultes, il n'y aura plus de place pour eux pour manger. Ces petits-là vont donc migrer. Ils vont se servir des égouts ou du sol pour aller migrer le moins loin possible à un endroit où il n'y a pas d'autres rats, où ils pourront faire leur terrier.
Le marché de Noailles est en travaux. Il a été installé juste un peu plus haut, sur la Canebière. On va aller voir si les rats aussi se sont déplacés là-bas.
Ah, ici, on en voit très peu de rats. Une fois de temps en temps. On dit, en gros, on en boit un par semaine le matin bonheur. Oui, ben le matin, des fois, on descend à 5 heures, on en boit un, mais c'est rare, c'est rare. C'est rare, il n'y a pas beaucoup de rats. Il y en a quelques-uns, parce que dans tout Marseille, il y en a, mais quelques-uns. C'est pas comme avant, en bas. En bas, il y a beaucoup plus de bouchers et tout. Ça. En bas, on en boit plein, ça grouille toute la nuit, ça promène. Ça. Des fois, on en boit écrasé sur la route, et la pêcheur, il se fait écraser. Mais il y en a beaucoup plus en bas. Ça n'a rien à voir avec ici. Ici, c'est un peu plus propre. Hein.
Voilà. En bas, c'est le quartier abandonné, là. Il est complètement abandonné.
Ouais,
on parle de la propreté, de l'insécurité, de tout. Le quartier, il est abandonné, là-bas.
Il te parle des rats, là.
Oui, mais je le confirme. Pourquoi ? Il y a des rats parce qu'il est abandonné. Mmh. Et ils ne font pas, ce qu'il faut pour éradiquer ces rats-là. Ah. Il y a l'insécurité, il y a de tout là-bas.
Ouais, mais ils refont le carrelage.
C'est un quartier abandonné, mais ils refont le carrelage.
Ça va tout changer, voilà, là. Ça va être beau par terre.
Beau par terre, ils ont refait la même chose. Pour passer deux câbles souterrains, là, ils arrachent tout.
Non, c'est plutôt pour lever de la place aux maraîchers qu'ils ont fait ça.
Voilà.
Felgrac, vous avez été l'un des seuls à essayer de répondre à cette question que tout le monde se pose, que ce soit les autorités politiques ou les médias. Combien y a-t-il de rats et est-ce qu'ils prolifèrent? Et c'était justement dans les égouts de Marseille, là, juste sous nos pieds.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On a appâté avec de la nourriture saine dans les égouts. On a calculé la quantité de nourriture consommée. De là, on a pu déduire le nombre de rats. L'expérience a été renouvelée à plusieurs reprises. Les résultats sont concordants, donc le système fonctionne. À Marseille, on a 1,65 rats par habitant en cœur de ville, là où nous nous trouvons. Là où donc il y a des conteneurs régulièrement sur les trottoirs, là où il y a des déchets en abondance, et un réseau d'égouts ancien où les rats peuvent creuser des terriers. Par contre, on va avoir moins de rats dans les quartiers résidentiels où il n'y a pas de commerce de bouche, où l'infrastructure du réseau d'égouts est de meilleure qualité. Là, on aura souvent moins d'un rat par habitant. Donc, en fait, la seule chose qu'on peut dire, c'est que le nombre exact de rats, on ne peut pas le savoir, mais il y a entre 1 et 2 rats par habitant en ville, selon la politique de gestion des déchets et l'état des égouts. Il ne peut pas y en avoir plus, puisque les rats ne peuvent pas proliférer. Les rats stabilisent leur population en fonction des ressources vitales disponibles. La seule chose qui pourrait faire proliférer les rats en ville, c'est une grève des éboueurs qui s'éternise. Les incivilités ne changent absolument rien pour les rats. Il y a toujours autant de nourriture disponible. Donc, que ce soit le cas de Paris ou le cas de Marseille, il faut bien qu'on se dise que si les rats devaient proliférer, pourquoi attendrait-il 2017 ou 2018 pour le faire? Ils ne l'ont jamais fait, ils ne le feront jamais. Si les rats devaient proliférer exponentiellement, ça fait longtemps que l'homme ne serait plus sur la Terre.
Qu'est-ce que la ville de Marseille peut faire pour essayer de mettre fin à ces rats en surface, au moins dans le quartier de Noailles?
Il est certain que l'état des égouts influe considérablement sur le nombre de rats présents dans un quartier. Il est certain que la quantité de déchets disponibles dans les rues et sur les trottoirs joue également un rôle important. Donc à Marseille, il faut jouer sur le nettoiement des rues, sur l'évacuation des déchets le plus rapidement possible et sur la rénovation des égouts pour empêcher les rats d'y creuser des terriers. La ville de Zurich, par exemple, sans rien changer à sa politique de gestion des déchets, constate qu'il n'y a plus de plaintes liées aux rats sur les quartiers correspondants à la réfection de réseaux d'égouts. Partout où les égouts ont été rénovés, donc en buse de béton bien jointée, il n'y a plus de rats, tout simplement parce que les rats ne peuvent plus faire leur terrier, donc ils n'ont plus aucune raison de rester là.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire ?
La première chose à faire, c'est gérer nos déchets. Si on n'est pas capable de supprimer la nourriture saine que vont rechercher les rats, ça ne sert à rien de dératiser. Le second point, c'est leur proposer des appâts réellement appétissants. Il faut donc procéder à l'amélioration de l'appétence de ces appâts sans entrer en contradiction avec la réglementation européenne qui fait qu'on n'a pas le droit de modifier les propriétés d'un appât. On va stocker les boîtes d'appâtage longtemps dans un endroit imprégné d'odeurs alimentaires. On va les manipuler avec des gants de peau eux-mêmes imprégnés d'odeurs alimentaires. Et pour guider les rats vers ces boîtes d'appâtage, eh bien on va utiliser, sans faire de publicité, du Viandox. On va tirer un trait de Viandox entre le terrier et la boîte d'appâtage pour que les rats qui passent dans le coin suivent la trace de Viandox qui les dirige vers la boîte d'appâtage. Et on va mettre suffisamment de boîtes pour que tous les rats qui sont dans le coin puissent y aller dans une boîte. Il n'y a qu'un rat qui rentre. Si donc il y a 200 rats sur un parc et qu'on met 50 boîtes, vous avez 150 rats qui ne rentreront pas dans la boîte. Une bonne dératisation, ça commence par se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Pourquoi les rats sont là ? Qu'est-ce qu'ils mangent ? En supprimant l'accès, en supprimant la nourriture saine et en posant des appâts aux saveurs améliorées, des appâts à l'appétence améliorée, on peut dératiser un parc en 3 jours. J'ai des clients sur Nice, sur Bordeaux qui font comme ça, ils dératisent leur parc en 1 semaine.
Alors donc je m'appelle Stéphane Bras et je suis porte-parole de la CS3D qui est donc l'organisation professionnelle qui représente la masse la plus importante, la plus critique dans le sens majorité des acteurs de traitement de la gestion du risque nuisible en France. C'est effectivement un métier d'avenir, mais je pense que la prise en compte au niveau de la société n'est pas encore complète. En clair, si vous voulez, la gestion du risque nuisible peut profiter à tous. Aujourd'hui, les actions qui sont menées pour la gestion, dans la gestion ou la lutte ou la prévention du risque nuisible sont complètement hétérogènes. C'est-à-dire que si on prend le cas de grandes villes comme Paris, qui vont mener des actions de traitement, elles vont mener des actions dans leur précaré, dans leur situation à elles, ces grandes villes, hein, les parcs, les jardins, les bâtiments communaux, etc., etc. Mais la sphère privée autour, au public, ne sont pas dans le même temps obligés, par le réglementaire, de faire la même action. Donc il serait totalement fou de penser qu'un rat, par exemple, va connaître une frontière entre un square parisien et les bâtiments qui l'entourent. Nous, on essaie d'interpeller les pouvoirs publics sur justement la nécessité de mener des actions de prévention et de gestion du risque, donc d'application en lutte raisonnée. Pourquoi ? Parce que, un, la prévention va coûter beaucoup moins cher à la société, et de plus, on va pouvoir maîtriser des phénomènes qu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas. Par exemple, la ville de Paris, la ville de New York, les grandes villes ouvrent les espaces publics à la population. Moi, alors, lorsque j'étais enfant, on ne pouvait pas aller sur les espaces engazonnés, on n'avait pas le droit de marcher dessus. Aujourd'hui, on nous y encourage. Donc ça signifie qu'on va créer de multiples zones, ce qu'on appelle de feeding en anglais, donc de nourriture pour les rats. Ce qui fait qu'on n'a pas pris en compte ça. Et donc, dans le fréquentiel, encore une fois, dans les obligations qui sont faites à tout un chacun, une copropriété, un commerce de bouche, etc., etc., on va toujours travailler comme on travaillait dans les années 60-70. Et une fois qu'on a compris ça, il faut mener une action régulière de contrôle. On ne dit pas forcément de traitement systématique, mais de contrôle de la situation, des bâtiments, qu'ils soient en pré-construction, en construction. Vous parliez de travaux, voilà. Une zone dont on sait qu'elle va être en travaux va nécessiter des précautions.
Et aujourd'hui, il n'y a pas de concertation, en tout cas pas assez.
Alors, il n'y a pas suffisamment de concertation, mais vous savez, aujourd'hui, on constate que ce qui fonctionne, c'est surtout le réglementaire. À un moment donné, quand on est amené ou obligé à mettre en place une mesure de gestion ou de prévention, on va le faire. On peut penser au détecteur de fumée, on peut penser à la gestion des chaudières, par exemple. On a tous un contrat de contrôle. Voilà. Et ben, nous, on pense que c'est ce qu'il faudrait à minima faire, sans compter, si vous voulez, que là, on parle des rats au niveau des halles, mais les problèmes de punaises de lit, par exemple, extrêmement importants aujourd'hui, pour ne pas dire gravissimes dans certains cas, sont en développement. Demain, ça peut être le moustique-tigre. Si on n'a pas, si vous voulez, une prise en compte, encore une fois, du risque nuisible dans son ensemble, au niveau sociétal, eh bien, on va droit à des problèmes.
Chasser les rats des espaces verts est devenu une priorité pour la mairie de Paris. 174 parcs sur 600 sont en cours de traitement. Deux jardins sont même interdits au public, dont le square Henri Roussel, près de la Butte aux Cailles. 6 mois de lutte vaine contre les rongeurs, les équipes testent un nouveau piège bien caché dans une caisse en bois.
Vous venez de prendre une sorte de grattoir et de touiller l'eau. Qu'est-ce que vous regardiez ?
Voilà, ça c'est de l'eau avec de l'alcool dedans, parce qu'en fait, c'est tout un petit piège pour que les rats viennent, sont attirés par la graine.
Sur des graines de tournesol. Hein.
Voilà. Ils viennent manger, il y a un tourniquet, ils tombent là-dedans et ils se noient.
Est-ce qu'on peut aller voir
les pistes
hein. Les pistes de rats.
On peut aller voir.
Alors Georges Saline, vous êtes chef du service parisien de santé environnementale, vous êtes aussi médecin. Vous disiez, voilà, ça prend énormément de notre temps aujourd'hui, les rats. Comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, on en parle énormément ? C'est qu'il y en a beaucoup plus. Et comment on explique qu'il y en a beaucoup plus ?
Il y en a plus aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et on met plus de temps à les éliminer. Alors, il y a deux raisons majeures. La première raison est qu'on vient manger beaucoup plus dans les parcs et jardins qu'il y a quelques années. Et par ailleurs, on a beaucoup plus de mal à les tuer, tout simplement parce que depuis 2012-2013, on n'a plus le droit dans l'espace public de placer les raticides sous forme de granules en vrac. Vous avez vu les terriers, là. Ben, on versait un sac de granules empoisonnées dans le terrier, on rebouchait. Et le rat, pour sortir, en fait, il traversait carrément les raticides et il se nourrissait au passage. Mais le problème, c'est qu'il en dispersait. Comme il redébouchait le terrier, il en mettait un petit peu à côté. Et donc, vous pouviez avoir un chat, un chien ou beaucoup les oiseaux qui venaient manger ces appâts et qui mouraient. Donc, ça a été interdit. On a beaucoup plus de mal à tuer les rats. Alors, on utilise des pièges mécaniques que vous avez vus. Mais les pièges mécaniques ont aussi leurs limites, tout simplement parce que le rat est un animal intelligent. Et très méfiant, donc on en prend quelques-uns, mais ils apprennent assez vite à se méfier de ces pièges.
Alors oui, on a vu les pièges mécaniques, donc là on a vu des boîtes où on les noie, il y en a aussi où on leur coupe la tête. Quel choix vous avez fait, voilà, pourquoi vous avez choisi un système plutôt qu'un autre ? Est-ce qu'il y a une efficacité qui n'est pas prouvée sur l'un ou sur l'autre ?
Il y a des systèmes de guillotine électronique, en fait. Oui, on a choisi plutôt ce système parce qu'il est beaucoup plus robuste pour le placer en extérieur. Il ne réclame pas d'alimentation électrique. Il recueille les rats dans une cuve, dans un liquide conservateur, donc on peut ne relever le piège qu'à des intervalles plus longs, alors que les guillotines, le cadavre, il faut le ramasser rapidement, sinon il va rentrer en putréfaction, donc ça pue, quoi, voilà. Il y a un certain nombre de raisons qui font qu'on a préféré ce système.
Ce système coûte cher. L'an dernier, la mairie de Paris a dépensé 1,5 million d'euros pour lutter contre les nuisibles dans les égouts, les parcs et ses bâtiments publics. Les particuliers, eux, ont obligation de dératiser les immeubles sous peine d'une amende de 450 euros. Le service de protection et santé animale de la préfecture de Paris se charge des contrôles. Laurent, 30 ans de métier, et ses 3 collègues descendent dans les caves parisiennes.
Alors, les mesures précaution, hein, c'est toujours de faire du bruit pour les faire fuir. Alors là, vous pouvez, j'essaie d'avancer plus, vous remarquez déjà, cave sale et encombrée, cave privative sale et encombrée. Vous pouvez constater l'état des canalisations. Il manque un tampon hermétique.
Sur le dessus, c'est ça ?
Sur le dessus, vous voyez. et la canalisation percée et cassée. Et rien que ça, vous voyez le trou de 2 cm, et ben vous pouvez remarquer l'état de la cave.
C'est-à-dire qu'il y a des crottes, il y a des crottes partout, on voit bien, là, et puis ça sent très fort l'urine.
Non, c'est... Ouais. Hein. Après, j'ai fait tout le long du couloir, bon, il n'y avait rien d'autre. Hein. C'était ici le principal.
Donc tout le problème vient...
Vient de cette cave.
Vient d'un trou de 2 cm dans une canalisation pétée. Hein.
Quand il y a présence de rats, c'est qu'il y a obligatoirement un passage. Obligatoirement un passage.
Le trou, il est dans la cave d'un particulier. Oui. Qui doit faire les travaux?
Alors, vu que c'est des canalisations de tout un égout, c'est au syndic de s'en charger. Hein. Après, si c'est dans les parties communes, là, à partir d'ici, ça sera au syndic. Le particulier, lui, n'aura qu'une chose à faire, c'est de débarrasser sa cave pour avoir accès. Hein. Sauf s'il est propriétaire. Bah, s'il est propriétaire et puis qu'il y a une canalisation de son appartement, là, c'est à lui. Alors, là, comme vous pouvez le constater, hein, les couloirs, ils sont peu entretenus et ils ne sont pas dératisés.
Hein, si donc, on a vu une boîte à l'entrée.
Oui, mais une boîte ne suffit pas.
C'est derrière la lumière.
Ah, il y en a une là aussi.
Vous voyez, quand je vous dis les caves, ça les encombrer. Ben, là, on a le modèle hein, de quelqu'un. Bon, ben voilà, il n'entretient pas sa cave. Hein. Alors, nous, qu'est-ce que s'il y a des rats là-dedans, hein, vous avez du tissu, des matelas, tout ça, ben, ils font leur nid et ça prolifère. Constamment. Donc, là, dans ce cas-là, je relève le numéro de la cave, admettons. J'envoie un courrier au syndic en disant « Faites débarrasser, nettoyer la cave, tant, numéro tant et tant. » Maintenant, si la personne est récalcitrante pour débarrasser sa cave, ben c'est elle que je verbaliserai.
Est-ce que vous vous êtes déjà fait agresser par des rats? On parle toujours de la capacité très agressive du rat.
C'est déjà arrivé, oui. Oui. Il y avait un rat qui était pris dans les parties communes, dans les couloirs, dans une cage d'escalier. Et celui-ci était remonté des caves, hein, bien sûr. Et plusieurs locataires et propriétaires ne pouvaient pas sortir, tellement qu'il était sur les nerfs. Donc moi, ils m'ont appelé. Mais où je m'y attendais pas, c'est qu'on s'est retrouvé nez à nez. Ouais, je ne sais pas si vous voyez le style de cage d'escalier, sans colimaçon, hein, et à la même hauteur que moi. Donc j'ai eu le temps de me baisser hein, et de l'éviter. Sans ça, il me sautait au visage. Alors je suis redescendu dans mon véhicule de service et j'ai été chercher une couverture. Puis la suite, eh ben, vous la devinez. Hein. Certains locataires avaient essayé de le taper avec un manche à balai. Il agressait encore plus.
Bah oui. Il se défend. Hein, donc,
Il agressait encore plus. Il montait le manche à balai. Hein. Personne ne pouvait sortir de l'immeuble. Hein.
C'est très rare, effectivement.
C'est rare. Ouais. C'est rare. Mais bon, à éviter d'être en contact avec. Hein.
Dinette Driet. Donc, je suis journaliste, je travaille pour Le Monde et j'ai écrit Dans les murs il y a 2 ans. C'est un livre qui raconte l'histoire du rat à Paris.
Faut être un petit peu maso parce que vous êtes phobique des rats.
Oui, mais c'est pour le plaisir de me faire peur, de me confronter à ma peur. À un moment, je m'étais dit que c'était le meilleur moyen de ne plus avoir peur. Ça n'a pas du tout marché. Mais j'avais un peu cette idée. C'est comme les gens qui ont peur du vide et à qui on dit qu'il faut faire un saut en parachute. Il y avait un peu de ça dans la démarche. Et puis par curiosité, moi j'ai appris plein de choses autant sur Paris que sur le rat. Donc ça m'a donné envie de les raconter aussi.
On n'est pas loin de la porte Maillot, Zineb Drieff. Pourquoi vous nous avez emmenés ici?
Parce que c'est ici qu'un Belge, Gustave Rouet, a ouvert le premier ratodrome de Paris, le seul ratodrome de Paris. Ça devait être autour de 1907. Et l'objectif de ce lieu, qui consistait en une espèce d'enclos de bois, c'était de faire combattre des chiens et des rats. L'idée, c'était d'entraîner ces chiens, des chiens ratiers, à dératiser Paris. On pensait que c'était une méthode efficace. Et c'est progressivement devenu un lieu de loisirs. C'est-à-dire que le dimanche, on est là, on buvait des verres, on pariait, on choisissait son chien. Mais bon, c'était assez horrible, notamment parce qu'on parle de dizaines de rats dans un enclos pour 2 chiens. Donc c'était une espèce de jeu de massacre. Et que les chiens se faisaient mordre par plusieurs rats. Il y a des images, c'est assez épouvantable.
Les rats sont lâchés, puis le chien suit. Le nombre de rats lâchés est égal au poids en livres du chien. Un témoin raconte. aussitôt commence une suite ininterrompue d'indescriptibles carnages. Les rats, demi-morts de peur, se sauvent en tous sens, cherchent à gravir les glaces, se blottissent dans les angles, sans cesse poursuivis par le féroce terrier qui, la gueule en sang, l'œil en feu, tord le cou à celui-ci, casse les reins à celui-là, en éventre un autre, jusqu'à ce qu'il se soit écoulé le temps réglementaire. Un chroniqueur vomit le spectacle dans les colonnes du journal des haras. On disait que monsieur le préfet de police avait refusé aux showman émérites l'autorisation d'organiser des combats de boules terriers et de rats. Monsieur le préfet aurait bien fait, mais voici qu'au dernier moment, j'apprends que ce veto a été levé. Pouah, pouah, ce sont là des spectacles peu faits pour relever le cœur et l'esprit.
D'où venaient ces rats? C'est Gustave qui les chassait, c'est ça?
Gustave les chassait. Gustave, c'était un des rois des chasseurs. Donc à cette époque, on chasse le rat manuellement. On attrape les rats à la main. Il va y avoir différentes techniques de chasse. Là aussi, c'est assez documenté. Il y a des grands récits sur les chasseurs. Donc Gustave les attrapait lui-même. Et quand ce n'était pas Gustave, c'était des gens dont c'était le métier et qu'il les revendait à Gustave pour les utiliser dans son ratodrome.
Gustave aimait à être présenté comme un professeur à qui l'on confie des élèves. Il promettait qu'en une ou plusieurs séances, n'importe quel chien, sauf ceux de grande taille, pouvait être dressé à la chasse. Certaines séances se révélaient laborieuses, le chien et le rat paraissant bien s'entendre dans l'arène. Gustave, persévérant, parvenait toujours par obtenir du chien qu'il bondisse sur le rat pour le saisir par les reins, le lancer en l'air, le secouer, le rejeter à terre. Il souriait à son client. « Vous voyez, c'est rapide et bien fait. D'ailleurs, un chien exercé doit tuer ses 5 rats en 12 ou 13 secondes. » Lorsque le chien était vraiment récalcitrant, on l'enfermait dans un tonneau avec une douzaine de rats. Zineb Drieff, dans les murs. Interception, le magazine de reportage de France Inter.
Les techniques de lutte contre les rongeurs ont évolué. Elles tiennent parfois du simple bon sens, sans budget prohibitif. Et ça marche. Carcassonne, par exemple, a réussi à diminuer le nombre de rats en surface. C'est ce que constate le service municipal d'hygiène. Éric Bernard a suivi les conseils de Pierre Falguérac, le spécialiste en dératisation. Nous les retrouvons au pied de la cité.
Ce qu'on a appris, bon, c'est d'une part de mieux maîtriser la biologie du rat, en règle générale, et surtout de ne pas faire de la dératisation à tort et à travers, mais de cibler plus spécialement sur certains secteurs, notamment sur les égouts, et bon, après, au niveau des égouts, plus sur le centre-ville et les vieux quartiers, que de faire ça d'une manière un peu désordonnée, dans tous les sens, et de balancer des produits dans des endroits qui n'en ont pas besoin, obligatoirement.
Est-ce que vous avez mis en place un système différent au niveau des poubelles ?
Il y a pas mal de conteneurs qui ont été enterrés dans le centre-ville, mais après, le gros problème qu'on a, même avec des conteneurs enterrés, c'est l'incivisme. Il est plus facile de poser le sac à côté du conteneur que de le mettre dans le conteneur. Même si ça représente quelques secondes de plus, mais bon, c'est comme ça.
Ben, je suis heureux d'entendre ça. Il n'y a pas beaucoup de villes qui fonctionnent comme ça, mais c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Partout où les poubelles sont déposées sur le trottoir le soir pour être ramassées le matin, c'est comme si on mettait le couvert pour les rats et on leur débarrassait la table le matin. Donc l'idéal, c'est de ramasser les poubelles le soir. Comme ça, on prive les rats de manger et on les oblige à migrer dans un endroit où il y a de la nourriture ou à disparaître, tout simplement.
Pierre Falguérac, la ville la plus pointue sur le sujet des conteneurs, c'est Monaco, si je ne me trompe pas, qui a carrément mis des conteneurs en acier.
L'acier et le béton ne peuvent pas être attaqués par les rats. Monaco dispose de moyens dont disposent peu de villes françaises. Monaco nettoie tous ses trottoirs et toutes ses rues à grande eau potable tous les jours. On n'est pas du tout dans le développement durable. Ce n'est pas forcément une bonne chose. En tout cas, le fait d'utiliser des conteneurs en métal avec des couvercles fermés et de les cacher derrière des portails même en acier, ça c'est une excellente chose.
Monsieur Bernard, vous faites de la prévention, une campagne de dératisation tous les ans ?
Nous faisons deux campagnes de dératisation tous les ans. Une au printemps, en mars-avril, plutôt avril, et une autre à l'automne, au mois d'octobre. On fait systématiquement toute la ville et on dératise les égouts.
Il y a des pics d'activité au printemps parce que c'est une saison apte à la reproduction. Et à l'automne, les rats ont tendance à s'abriter, à se rapprocher des sources de nourriture. Donc en ciblant des campagnes sur les pics d'activité des rats, c'est le meilleur moyen de réguler leur population.
Vous avez encore des problèmes de rats ?
Ah, mais les rats, il y en a. Il y en aura toujours, je pense que de toute façon, tant qu'il y aura des humains, il y aura des rats. Hein, tant qu'on produira des détritus, des ordures, et qu'il y aura beaucoup d'incivisme, il y aura des rats. Le tout, c'est de contrôler la situation. Ce n'est pas de les éradiquer, on ne cherche pas à les éradiquer. De toute façon, c'est impossible. Et en même temps, on peut se dire que si on les éradiquait vraiment, si ça pouvait arriver, peut-être qu'on aurait d'autres problèmes qui se grefferaient. Notamment sur les égouts, avec des bouchons de graisse ou tout autre. Le rat joue son rôle écologique aussi dans la chaîne. Le tout, c'est de ne pas se laisser envahir.
Le rat, notre nuisible utile, c'était un reportage de Mathilde Dehimy, qui n'est donc pas musophobe, puisque c'est comme ça qu'on appelle les phobiques des rats. Qualité partagée par Jérémy Thuil et Yann Fressy, ils ont assuré la prise de son. Réalisation Michel Soulier, phobique des serpents, assisté de Stéphane Combe, aucune phobie déclarée. Mixage, Raphaël Rousseau. Merci également à Stéphanie Duncan et Hugo Combe pour avoir prêté leur voix pour les lectures d'extraits littéraires. À dimanche prochain.